mardi 11 janvier 2022 à Lille, manifestation à l'appel d'une journée de mobilisation nationale pour les professionnels de santé et du médico-social. Partout, les manifestants et manifestantes ont dénoncé une charge de travail toujours croissante et un manque de moyens toujours plus criant. Ce sont également les oubliés du Ségur de la santé qui étaient là. Les salariés des secteurs du sanitaire, du médico-social, du social public sont essentiels, notamment pour garantir à toutes et à tous l'accès aux droits sociaux et aux soins. Les professionnels continuent à se dévouer corps et âme pour assurer une prise en charge de qualité et un accueil digne pour la population. Mais combien de temps de crise faudra-t-il pour que le gouvernement change radicalement de politique sociale de santé? À quand une réelle politique en matière d'emploi et de salaire pour améliorer les conditions de travail des personnels de santé et également des oubliés du Ségur de la santé? Voici quelques-unes de leurs revendications. Augmentation du budget consacré à l'hôpital et aux établissements de santé. Reconnaissant les franches revalorisations générales des carrières médicales et non médicales, se traduisant par une augmentation qui correspond aux qualifications et aux responsabilités de ces métiers. Le recrutement immédiat de centaines de milliers de professionnels supplémentaires. Un plan de formation pluridisciplinaire correspondant. L'arrêt des fermetures de services, d'établissements et des réouvertures de lits, de structures partout où cela est nécessaire. Une gouvernance des hôpitaux, des établissements du sanitaire, du médico-social et du social, plus ouvert au personnel et aux usagers et usagères. L'égalité d'accès, d'accueil et de prise en charge de qualité pour la population et sur tout le territoire. Au cours de ce reportage, qui a eu lieu donc à Lille le mardi 11 janvier 2022, vous pourrez entendre quelqu'un qui est aide-soignante, qui est également déléguée CGT. Elle est aide-soignante dans le milieu associatif. Vous entendrez également une conseillère régionale, Élodie Cloez, qui siège dans l'opposition face à Xavier Bertrand et qui a notamment proposé une allocation d'autonomie de la jeunesse. Vous entendrez également un membre de la France Insoumise, un citoyen sans étiquette, une citoyenne, membre du Front Social, mais également militante pour la cause animale et membre de la CGT. Vous entendrez quelqu'un du NPA et encore quelqu'un de la CGT.
Moi, je suis aide-soignante en tissu associatif avec des personnes en situation de très lourd handicap dans le Pas-de-Calais.
Où ça ?
À Cervin, près de Bouvigny-Boyeuf. C'est sur les collines de l'Artois, un petit établissement de 84 salariés.
D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre quotidien, les contraintes que vous rencontrez au niveau professionnel ?
Bah, disons que là, les contraintes, nous, on demande, c'est la revalorisation de nos salaires, la reconnaissance de nos compétences et des embauches, parce qu'on est énormément de salariés déjà d'un certain âge et que les résidents deviennent de plus en plus lourds. Donc on réclame quand même de l'embauche pour pouvoir nous soulager au niveau physique. Mais comme on est du tissu associatif, les enveloppes budgétaires ne sont pas prévues pour. Hein, donc voilà.
Vous faites partie d'un syndicat, la CGT ?
Oui, la CGT, je suis j'ai le syndicat en local, je fais partie de l'USD, l'Union syndicale départementale, et puis j'ai un mandat national pour la branche médico-sociale. Donc dans le Pas-de-Calais, je gère tout ce qui est le tissu associatif et le médico-social.
D'accord, c'est très intéressant. Vous devez avoir beaucoup de missions, vous devez avoir beaucoup de choses à faire en ce moment.
En ce moment, c'est surtout être à l'écoute des salariés dans tout ce tissu associatif. Tout le monde est à peu près épuisé et tout le monde a besoin qu'on les entende. La colère en ce moment, c'est « je ne suis pas compris, on ne m'entend pas ». Et aussi, ils exigent des augmentations de salaire. Et le côté non discriminatoire, dans le sens où on donne à certains et on ne donne pas aux autres. Parce que les plus bas salaires sont dans le technique, tout ça. Moi, je vois dans mon association, en fait, il y aurait par exemple les soignants qui auraient le droit aux 183 euros, si le gouvernement veut bien nous les donner, mais pas les autres salariés. Donc les plus petits salaires sont toujours au niveau du technique. Donc nous, on réclame pour tous.
J'imagine que vous réclamez également des moyens pour trouver des solutions pérennes à vos usagers quand vous essayez de les aider. Il y a aussi ce problème-là dans le cadre du social, du médico-social.
Nous, nos résidents, en fin de compte, sont en internat. On est en relation directe avec les familles quand il y a encore des familles, mais c'est surtout la qualité de vie qu'on veut leur donner. Notre projet d'établissement, c'est vraiment le résident au centre de notre établissement. Et pour qu'il soit heureux, il faut que le salarié ait de bonnes conditions de travail.
Qu'est-ce qui pourrait aider ?
Disons que nous ne sommes pas une association rattachée à un établissement. Donc en fin de compte, c'est une enveloppe budgétaire qui est accordée tous les ans. Là, on est en négociation pour la branche, pour l'enveloppe budgétaire. Mais on voit que l'enveloppe budgétaire est de plus en plus restreinte. Et donc, ça ne laisse pas aux directions le libre arbitre d'embaucher. Parce que s'ils n'ont pas de sous, ils ne peuvent pas embaucher. Ce n'est pas possible. Et donc, on a aussi des directions qui sont en souffrance. Moi, je vois dans mon établissement, par exemple, notre directeur nous a accordé, on est une quinzaine de l'établissement à venir manifester. C'est sur du temps de travail. Et il nous a même prêté un véhicule pour montrer que les directions aussi souffrent et ils ne peuvent pas nous embaucher alors que c'est une nécessité.
Voilà. C'est intéressant ce que vous dites. Et lui-même, est-ce qu'il est syndiqué à la CGT ou il n'est pas syndiqué ? Ou chez les cadres, peut-être ?
Non, il n'est pas à la CGT. Ils ont il y a un syndicat pour les directions, c'est Nexem. Mais comme en ce moment, nous, notre seul interlocuteur, c'est Access. Et Access, c'est le super syndicat patronal qui est en relation directe avec le gouvernement. Donc, il y a une méconnaissance totale du tissu associatif et du médico-social, même avec les dernières ordonnances de Sophie Cluzel, c'est notre secrétaire pour la personne handicapée. Elle pense que toutes les personnes en situation de handicap peuvent intégrer le monde du travail, alors que nous, c'est pas possible. Et voilà, c'est ça aussi qui ne va pas, c'est la méconnaissance de tout le tissu associatif, tout ça, par tout le monde. Moi, je dis tout le temps, nous, on est les invisibles de la société.
Peut-être que dans ce que vous dites là, il y a aussi le problème d'une gestion technocratique par le haut, sans connaître
la réalité. Ah oui, tout à fait. Parce que nous, on réclame 300 euros net d'augmentation pour tout le monde, parce qu'en 25 ans, notre pouvoir d'achat a baissé de 300 euros. Quand vous voyez que quand on commence dans le tissu associatif, on est au niveau technique, on est en dessous du SMIC. Bon, il y a la fourchette qui fait qu'avec le CITE qui donne une compensation, mais c'est pas normal qu'on commence en dessous du SMIC à l'heure actuelle. Donc ce qu'on demande, c'est vraiment de la reconnaissance des compétences et des métiers.
Bah oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, la santé est devenue le sujet des Français depuis 2 ou 3 ans. Et malheureusement, les acteurs de cette santé, qui sont les soignants, sont les grands oubliés en fait, de cette pandémie finalement. C'est ceux qui sont au premier rang depuis maintenant plus de 2 ans. Et en fait, le gouvernement ne cesse de leur mettre des claques, donc c'est important de venir leur apporter notre soutien aujourd'hui.
Alors, quel est votre nom, votre prénom ?
Alors moi, je m'appelle Élodie Cloez et du coup, j'ai été élue dernièrement au conseil régional des Hauts-de-France. Et donc, je siège avec mes camarades insoumis face à Xavier Bertrand.
Il y a du boulot ?
Ouais, il y a du boulot parce que c'est une grosse majorité de droite. On est content d'être arrivés parce que ça les a bien secoués, eux qui se faisaient du ping-pong entre eux et le RN. Donc ça fait du bien de revoir un petit peu de social, revenir dans cet hémicycle. Et je pense que justement, on va pouvoir porter des combats au niveau d'ailleurs de la santé, mais sur d'autres sujets, l'écologie et le social au niveau de la région. Et c'est important qu'on soit revenu dans ce bastion-là.
Alors là, c'est quoi les revendications ? Revalorisation salariale des professions du médical et du médico-social ?
Alors il y a effectivement les revalorisations salariales, parce que le secteur de la santé, on sait que c'est un secteur où la difficulté au travail est importante, parce que les soignants donnent énormément de leur corps, de leur temps. Donc il est important aussi que cette donation se voit sur leur salaire, parce que c'est un corps de métier qui, en tout cas, aujourd'hui, fait beaucoup pour l'intérêt général de la population. Mais ils sont aussi également ici pour parler en fait, de la gestion de la crise sanitaire et du fait qu'on a cessé de supprimer des lits d'hôpitaux. ce qui a du coup mis une telle pression sur le système hospitalier qui fait qu'aujourd'hui c'est pour ça qu'on est dans un système hospitalier où en fait le personnel soignant souffre énormément des conditions de travail. Au-delà de la question des salaires, il y a la question de comment on vit aujourd'hui à l'hôpital chaque jour.
Vous êtes combien dans l'opposition, là, dans ce conseil régional, et est-ce que vous arrivez à faire entendre vos arguments ?
Alors, si on parle de l'opposition de gauche en tant que telle, et bon, je pense au mot gauche au sens large, on est du coup 28 qui sont issus de la liste d'Union de la gauche qui a été élue. Je ne saurais vous dire combien sont exactement le RN, mais du coup ils sont aussi une opposition. Mais donc en tout on doit être à peu près 80 dans l'opposition. Mais si je compte juste du coup l'opposition de gauche, on est moins de 30 du coup. Mais du coup voilà, on essaie en tout cas, nous à notre échelle, de faire porter malgré tout une voix de gauche. Et je pense qu'elle s'entend assez bien puisque depuis quelques conseils, Xavier Bertrand est assez à cran en disant que nous sommes une opposition qui fait du brouhaha. Parce que justement, il n'était plus habitué à avoir des conseils régionaux aussi animés. Donc je pense qu'on fait assez bien notre travail.
Qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette année par rapport aux conditions de travail, comme avancée, je veux dire?
Bah alors, comme avancée, je dirais bien du coup forcément tout ce qui est la revalorisation salariale, aussi l'augmentation des embauches dans la fonction hospitalière, mais aussi... la revalorisation complète du système hospitalier aussi pour les patients qui sont accueillis. Malheureusement, je pense que tout se joue d'ici quelques mois avec l'élection présidentielle, parce qu'il est clair que si Macron est réélu, rien ne va s'améliorer, tout va ne faire qu'empirer, puisqu'il a cassé le système hospitalier depuis 5 ans. Hein. Donc si jamais il repart pour 5 ans, il ne faut pas se faire d'illusions, il continuera à le casser d'autant plus, et c'est bien inquiétant, il faut le dire.
Alors vous qui côtoyez des Républicains dans le cadre du Conseil régional, eux, ça serait quoi leur position ? Est-ce que ça serait une catastrophe aussi pour la question de l'hôpital ?
Je ne suis pas experte du programme des Républicains au niveau de l'hôpital, mais je sais que, notamment lors du dernier Conseil régional, on avait notamment l'UDI, qui est assez proche des Républicains, qui avait comme mesure phare pour sauver l'hôpital de proposer la régionalisation du système hospitalier. Et ça montre bien qu'en fait, ils sont complètement à côté de leur pompe. Et en fait, quand on leur parle de souffrance au travail, de manque de lits pour les patients, en fait, tout ce qui leur occupe, c'est des occupations technocratiques sur comment on gestionne, est-ce qu'on régionalise, est-ce qu'on fait tel service ou tel service, alors que c'est pas ça qui compte aujourd'hui. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de revenir aux sources et la question du salaire, la question des moyens, autant pour les patients que les soignants. Mais ça, c'est complètement édulcoré chez eux, quoi.
Bah, je comprends pas pourquoi dans une société où il y a autant d'inégalités des richesses, il n'y a pas plus de moyens qui sont donnés pour les métiers de l'humain. Voilà.
Tu as toi-même rencontré des problèmes cette année suite à des défaillances du système hospitalier, toi ou tes proches ?
On rencontre tous beaucoup de problèmes. Je n'aurais pas donné un exemple comme ça, si tu veux. Oui, parce que il n'y a pas assez de moyens dans l'école de nos gamins, il n'y a pas assez de moyens dans l'hôpital, il n'y a pas assez de moyens. Mais je ne saurais pas te donner un exemple particulier et personnel, en fait.
Toi, tu es venu ici comme simple citoyen pour unir tes forces au groupe ?
Oui, exactement.
Tu es Lillois ?
Oui, je suis Lillois, et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de manif et que j'ai besoin d'être dans le bain et de sentir qu'on n'est pas dans une société avec des moutons qui disent amène à tout, en fait. Voilà.
Alors, nous sommes seulement le 11 janvier 2022, et pour toi, qu'est-ce qui, d'après toi, est un gros échec ou t'as fait franchement peur dans l'actualité sociale, locale, politique, économique ?
Bah, Quand un président qui déclare vouloir emmerder une partie de ses citoyens, déjà ça c'est un méga flop, quoi. En fait, je comprends pas ce type-là, ce qui lui est passé par la tête. Je comprends même pas son intérêt à faire ça, tu vois. Excuse-moi, j'arrive pas à...
Est-ce que tu as l'impression que la mobilisation sociale reprend ? Et va prendre, en fait, là, en ce début d'année, parce qu'on a 4 manifestations à Lille cette semaine, par exemple. C'est de bon augure pour toi ou de mauvais augure ?
Bah, en fait, il fait super froid, il y a déjà pas mal de monde dans les rues. Donc après, je suis pas Nostradamus, donc je peux pas, je peux pas te dire ce qui va se passer à l'avenir. Souvent, quand il y a des révolutions, on les voit pas venir, en fait. Quand il y a des changements majeurs, on les voit pas venir. 3 mois avant le mouvement des Gilets jaunes, j'aurais été incapable de dire qu'il y aurait eu un tel mouvement à ce moment-là. On était tous désemparés par l'espèce de martèlement libéral, etc. qu'il y avait. Et puis, tac, un mouvement énorme, inédit, qui se passe. Donc, je sais pas. Je modestement.
Aurais-tu un mot de la fin, un mot d'encouragement pour les auditrices, auditeurs ?
À la fin, c'est nous qu'on va gagner.
Merci.
En 2022, plus que jamais, le virus, c'est le gouvernement, c'est les élus, tous les élus. Tous les élus sont des virus. Aujourd'hui, en France, il n'y a plus de liberté. Je ne suis pas vacciné, je ne me vaccinerai pas. Et je t'emmerde, Macron.
Plus de lits, plus de places, plus de, bah de soignants. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et puis arrêter de dire que c'est les non-vaccinés. Qui prennent la place aux urgences, parce que c'est un problème d'il y a 30 ans déjà.
Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on responsabilise la population pour les conséquences de la crise Covid et qu'on responsabilise les individus plutôt qu'on fasse porter la culpabilité, la responsabilité à la structuration hospitalière, à la gestion hospitalière et
politique ? Bien sûr, c'est carrément ça. En fait, le gouvernement, il fait peser le poids de leur échec sur les non-vaccinés, alors que dès le départ, c'est eux qui ont eu une gestion de crise abominable. Il n'y avait pas de masque, ils mentaient, on ne savait pas le mettre, ils n'avaient pas de test, ils n'avaient rien. Moi, mon père, il est décédé à la deuxième vague du Covid, et malheureusement, il n'a pas pu être vacciné. C'est bien contre les cas graves, mais après, généraliser à l'ensemble de la population, mettre un pass sanitaire puis vaccinal, c'est pas la solution, on discrimine tout le monde. Et là, en plus, on fait porter le poids, alors que, effectivement, comme c'est payé à l'acte, hein, c'est ça, à l'hôpital, depuis des années, c'est ça qu'il faut rechanger. Et en plus, ce qu'ils disent, quand ils disent « on coûte cher à l'AREA », c'est pas vrai. Les vaccins sont ni gratuits, même les tests, quand ils l'étaient, parce qu'on les paye dans nos cotisations sociales. Et ça, les gens ne réalisent pas. Même si je vais en réel, je l'ai payé, quoi. Et il y a ma mutuelle qui met avec. Donc, le gouvernement,
On oublie souvent de penser que la sécurité sociale, c'est pas un ministère de l'État, géré par l'État. C'est à nous.
Ah non, l'argent de l'État, c'est le nôtre. Et en plus, dans la fiche de paix, ou même dans le chômage, ou dans quand on a l'assurance chômage, ou... L'assurance comment l'invalidité, on paye des cotisations, on paye aussi l'impôt et le remboursement de la dette sociale. Donc tout ça, vous saviez que juste avant la pandémie, on avait remboursé la dette, là, les 4 milliards. Et voilà, et maintenant, ça aussi, il va le mettre sur le dos des non-vaccinés. Et puis en plus, ça provoque des disputes à la maison. Par exemple, moi, je suis vaccinée parce qu'on m'a mis vraiment la pression, le pneumologue. Parce que j'ai des comorbidités et mon épouse, elle n'est pas vaccinée. Des fois, je vais boire un verre tout seul. Je sais pas, c'est grave, quoi.
Et elle se sent stigmatisée ?
La dernière fois, elle pleurait, quoi. Quand elle a entendu passe vaccinal, elle ne pourra même plus passer d'une région à l'autre. C'est horrible, horrible. Et elle le fait, c'est par un peu comme Djokovic. C'est pour la cause animale, parce que c'est pour... N'importe quel vaccin, elle ne le fait pas par rapport à l'expérimentation animale. Et ce n'est pas une complotiste. Elle était d'accord que moi, je me fasse vacciner, mais elle ne se sent pas avoir le besoin. Et voilà, quoi.
300 000 contaminations par jour, avec des gens qui font des Covid longs. Peut-être le plus grand flop, c'est quand même Olivier Véran qui dit en fait, on va vers l'immunité collective, quoi. C'est-à-dire, il avoue ce qu'ils n'ont pas osé faire jusqu'à présent, c'est-à-dire laisser le virus circuler de manière à ce que tout le monde soit contaminé, malade, pour l'arrêter. C'est ça qu'ils avaient déjà envisagé en mars 2020. Au début, il avait envisagé, et puis ils avaient un peu reculé. Mais Macron n'était pas très loin de le faire. Et puis, ce qui s'est passé en Angleterre, c'est que les familles petites bourgeoises de Londres, elles ont tout de suite retiré leurs gosses de l'école. Et là, ils se sont dit, non, si on laisse la contamination, on va avoir des vagues de panique. Et du coup, le seul motif qui les avait conduits à reculer devant ça, c'était pas de sauver la vie des gens, c'était de pas se retrouver avec des paniques qui perturbent plus l'économie que le virus ne l'aurait fait. Et je crois que là, ils révèlent bien qui ils sont, quoi. C'est-à-dire, ils sont des gens qui gèrent l'ordre capitaliste bourgeois au profit des possédants, que la santé publique, eux, ça les intéresse que dans la mesure où ça conditionne le fait que les gens aillent travailler ou non, quoi. Vous savez, moi, ça me fait penser à une tribune du Monde, à un moment, de journalistes qui disaient, de d'épistémologues qui disaient, mais Macron... la doctrine scientifique évolue parce que l'état des connaissances évolue. Et au début, on savait pas que le masque ça protégeait la circulation du virus. Sauf que l'OMS, là, depuis bien avant la crise, disait que le masque protège évidemment. Non, oui, surtout la doctrine sanitaire, elle évolue selon les intérêts du moment, quoi. Quand t'as des masques, bah, le masque c'est important. Quand on n'a pas, le masque est facultatif. À ce sujet, c'est vrai que peut-être le grand flop de l'année dernière ou l'année d'avant encore. Je sais plus, c'était quand Olivier Véran était interrogé par la commission sénatoriale où on aurait dit ça ressemble au procès de Moscou. C'est-à-dire il y avait un mec, on disait Olivier Véran, mais Olivier Véran, il y avait des cliniques qui avaient des lits disponibles, pas dans des gens contaminés, pourquoi avoir transféré les gens d'un hôpital à un autre à 300 km de là. Et Olivier Véran il dit, mais s'il y avait eu. Si ce fait était vrai, on n'aurait pas fait ça. Alors que les mecs devant apportaient le fait, quoi, comme quoi il y avait des limites, quoi. C'est des discussions de ce niveau, quoi.
Et oui, et pendant ce temps-là, Agnès Buzyn a eu la Légion d'honneur.
Ah non, et le fait qu'Agnès Buzyn ait eu la Légion d'honneur, c'était quand même marrant, on n'y a pas pensé. Agnès Buzyn a eu la Légion d'honneur, pourquoi? Ouais, c'est quand même sacrément scandaleux. Ouais.
Et alors toi, tu es là pour... t'es avec un groupe d'amis, ouais, tu es ensemble citoyen,
On va jouer carte sur table, on est le NPA, nous. Voilà, on est venus... parce qu'on est du côté évidemment des soignants qui protestent contre les salaires de misère, les conditions pour l'absence de reconnaissance, tout ça. Et nous, plus largement, en fait, on essaye dans ces endroits de diffuser certaines idées, notamment la nécessité de remettre en cause l'ordre capitaliste. Donc il y a Philippe Poutou qui est candidat aux élections pour un peu relayer ce message, mais fondamentalement, c'est par des soulèvements de masse qu'on pourra perturber et remettre en cause vraiment cet ordre, quoi. Donc c'est un peu ces idées-là qu'on défend. C'est à cette tâche, quoi, qu'il faut se préparer, parce que sinon les clowns là, qu'on entend, on va les entendre encore longtemps. Hein, et la misère là, qu'on connaît. Moi, j'ai un des trucs, je discutais avec un soignant là, dans la manif. Il est infirmier, sa femme elle bosse aussi. Il me disait qu'il n'allumait pas le gaz l'hiver. Alors, il habite à Lille, il habite dans le coin, il est loin d'être le seul. Ça c'est assuré. Mais là les deux bosses, ils ont des gosses. Hein. Ils ont des gosses. Il allumait pas le gaz. Il allumait pas le gaz parce que dans un logement social un peu pourri comme le mien, passoire thermique, tout ça, parce qu'il a pas les moyens de payer le chauffage. Voilà, on en est là, mais il y a un jour, il y aura le degré de température trop bas qui fera quand même péter un câble. C'est un nombre de gens et à ce moment-là, il y aura des convulsions qui frapperont la société. Et après, là, la question pour nous, le NPA, c'est de convertir une révolte en révolution, quoi. Essayer de s'assigner les objectifs de remise en cause du capitalisme, parce que c'est pas forcément évident, le pouvoir patronal et tout. C'est un peu ça, un peu notre tâche pour les décennies qui viennent.